VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiache avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h30 en temps universel. Au sommaire ce soir, en Afrique du Sud, c'est désormais officiel. L'ANC au pouvoir exige le départ du président Jacob Zuma. Au Nigeria, l'un des ravisseurs des lycéennes de Chibok écope de 15 ans de prison. En Éthiopie, amnistie pour Bekele Gerba, l'un des principaux responsables de l'opposition. Et le Koweït, deuxième étape de la tournée au Moyen-Orient du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Dans 10 minutes, c'est la Minute Écho et les sports. Mais d'abord le journal. En Afrique du Sud, l'ANC a sommé le président Jacob Zuma de tirer sa révérence. Décision prise à l'issue hier d'une réunion marathon à huis clos de 13 heures de la direction du parti à Pretoria. Eric Maniakiza.
C'est le secrétaire général de l'ANC qui a annoncé la couleur. Ace Magashule a déclaré que le comité national exécutif a décidé de rappeler le camarade Jacob Zuma. D'après un membre de cet organe de décision du parti, M. Zuma a 48 heures pour démissionner. Le patron de l'ANC et vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, devra le remplacer. En cas de refus, l'ANC peut saisir le Parlement et faire voter une motion de défiance. Le naufrage semble être proche. Le Conseil des ministres prévu initialement demain a été remis à une date non précisée. L'autorité du président Zuma a commencé à vaciller depuis l'élection en décembre de M. Ramaphosa à la tête de l'ANC. La mise à l'écart de M. Zuma est la condition incontournable pour redorer le blason du parti avant les élections générales de 2019. Le président Zuma traîne derrière lui une réputation sulfureuse nourrie de nombreuses accusations de corruption. Avec 783 chefs d'accusation. La fin attendue du règne de Jacob Zuma est une ironie de l'histoire qui se répète en Afrique du Sud. En 2008, il avait fait tomber dans des circonstances similaires son prédécesseur et grand rival, Thabo Mbeki.
Eric Maniakiza. Au Nigeria, l'un des ravisseurs des lycéennes de Chibok a été condamné à 15 ans de prison. Ce militant du groupe djihadiste Boko Haram est accusé d'avoir participé à l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles dans le nord-est du pays en 2014. Des précisions avec Blanche Sanou.
Haruna Yahya, 35 ans, un handicapé ayant un bras paralysé et une jambe déformée, a plaidé coupable mais a demandé la clémence des jurés. Il dit avoir été forcé à intégrer le groupe armé et à porter un fusil d'assaut AK-47. En 2014, il faisait partie des ravisseurs qui ont kidnappé les filles de Chibok. Lors de son audition, Haruna Yahya a avoué avoir eu une liaison avec l'une des jeunes filles qui l'aurait supplié de la libérer, mais il a assuré qu'il ne pouvait rien faire, étant lui-même sous la contrainte. Il a donc été condamné par le tribunal ad hoc, dont les audiences se sont ouvertes lundi à Kenji. 19 autres membres de Boko Haram qui comparaissaient lundi ont été condamnés à des peines de 3 à 5 ans de prison. Les autres dossiers ont été renvoyés à une nouvelle audience. Depuis 2009, le conflit avec Boko Haram a fait au moins 20 000 morts, 2,6 millions de déplacés au Nigeria et des milliers de personnes ont été enlevées.
Le Nigeria, où un policier a été tué et mutilé dans le centre-est du pays, dans un contexte de violence accrue entre agriculteurs et éleveurs qui ont fait des centaines de morts ces dernières semaines. Amnesty International a averti que le conflit connaissait une escalade qui était en train d'échapper au contrôle des autorités nigérianes. L'administration du président Muhammadu Buhari, peul musulman issu du nord comme la plupart des éleveurs, est très critiquée pour sa passivité face à la multiplication des violences contre les agriculteurs, majoritairement chrétiens. Le chef de l'État a affirmé ce mardi que son gouvernement travaillait jour et nuit pour assurer le retour de la paix et de la stabilité. L'un des principaux responsables de l'opposition en Éthiopie, Bekele Gerba, emprisonné depuis fin 2015, a été libéré ce mardi. Monsieur Gerba, vice-président du Congrès fédéraliste Oromo, bénéficie de l'amnistie annoncée le 3 janvier par le premier ministre Hailemariam Desalegn à l'égard de certains hommes politiques. Monsieur Bekele avait été arrêté en décembre 2015 à l'occasion de la répression des plus importantes manifestations anti-gouvernementales en Éthiopie depuis 25 ans. Il était devenu un symbole de la cause du plus grand groupe ethnique du pays, les Oromo, qui s'estiment marginalisés. 38 djihadistes ont été tués dans le nord et le centre du Sinaï égyptien et 526 ont été arrêtés après 4 jours d'une vaste opération antiterroriste, selon un communiqué de l'armée publié aujourd'hui. Des précisions, Jean-Roger Bion.
L'armée a lancé vendredi une campagne d'ampleur pour nettoyer le Sinaï dans le nord-est égyptien, le delta du Nil et le désert occidental frontalier de la Libye. D'après le porte-parole des forces armées, un échange de tirs à Al-Rish, chef-lieu du nord Sinaï, a abouti à l'élimination d'une cellule terroriste très dangereuse composée de 10 extrémistes. Cette annonce porte le bilan des djihadistes tués à 38 depuis le début de cette campagne baptisée Sinaï 2018. Au total, 526 personnes ont été arrêtées, dont 400 pour la seule journée de lundi, selon l'armée. Fin novembre, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi avait donné 3 mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité au Sinaï. Cette injonction avait été lancée quelques jours après une attaque contre une mosquée dans le nord de la péninsule qui avait fait plus de 300 morts. Cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Égypte, n'a jamais été revendiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Koweït, deuxième étape de sa tournée au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a insisté sur la nécessité de rester concentré sur une défaite durable du groupe État islamique. C'était lors d'une conférence des pays membres de la coalition luttant contre ce groupe. Le point tout de suite avec Yacouba Ouedraogo.
Le groupe État islamique demeure une grave menace pour la stabilité de la région, de nos patries et d'autres patries du globe, a déclaré Rex Tillerson. Il a ajouté que les islamistes ne contrôlent plus 98% du territoire, comme lors de leur apogée en 2014, quand ils avaient déclaré la mise en place d'un califat en Irak et en Syrie, mais la menace est différente. En Irak et en Syrie, le groupe État islamique cherche à se transformer en une insurrection. Dans des endroits comme l'Afghanistan, aux Philippines, la Libye, l'Afrique de l'Ouest et d'autres, il essaie de tailler et de sécuriser des zones, a-t-il fait savoir. Le secrétaire d'État américain a annoncé 200 millions de dollars d'aide aux zones libérées de la Syrie. Il va aussi prendre part à une conférence de donateurs pour la reconstruction de l'Irak. M. Tillerson et les officiels présents à la conférence ont reconnu les préoccupations de la Turquie par rapport aux militants kurdes, considérés par Ankara comme une menace. Cette tournée de Rex Tillerson au Moyen-Orient a commencé en Égypte et se poursuivra en Turquie, en Jordanie et au Liban.
Le Hashd al-Shaabi, coalition paramilitaire dominée par des milices chiites irakiennes et patronnée par l'Iran, a réussi avec l'aide des gardes-frontières irakiens à briser le siège imposé par le groupe État islamique sur une position où se trouvaient 11 combattants des FDS, les forces démocratiques syriennes. Interrogé sur le paradoxe qu'une organisation jugée proche de l'Iran sauve des membres d'un groupe proche des États-Unis, le commandant Nasrallah a répondu « Daesh est l'ennemi de tous ». Nous avons un ennemi commun. En Turquie, selon une responsable de sa formation, l'ancienne coprésidente du principal parti pro-kurde turc, Serpil Kemalbay, a été arrêtée pour avoir critiqué l'opération menée par Ankara dans le nord de la Syrie, accusant le pouvoir de viser les Kurdes en tant que peuple. Le gouvernement turc affirme de son côté mener cette opération pour éliminer les unités de protection du peuple, une milice kurde considérée comme une organisation terroriste par Ankara, mais alliée des États-Unis. La Russie, principal allié du régime syrien, va aider Damas à relancer ses gisements d'hydrocarbures et à prospecter pour en exploiter de nouveaux. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'énergie russe Alexandre Novak. Principal allié du régime syrien, qu'elle a aidé à remporter de nombreuses batailles contre rebelles et djihadistes, la Russie a signé avec la Syrie fin janvier une feuille de route pour coopérer dans le secteur de l'énergie. À Genève, le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, a fait état de plus de 22 000 réfugiés congolais qui ont fui les violences et traversé le lac Albert la semaine dernière pour rejoindre l'Ouganda. Des milliers d'autres sont rassemblés sur les rives du lac en attendant de pouvoir effectuer la traversée, a-t-il ajouté. Selon l'organisation, ils fuient depuis décembre la reprise des violences intercommunautaires et des affrontements entre groupes armés dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. La justice britannique a une nouvelle fois refusé de lever le mandat d'arrêt visant Julian Assange, qui ne pourra donc pas sortir libre de l'ambassade d'Équateur. L'Australien de 46 ans fondateur de Wikileaks, y avait trouvé asile en juin 2012 pour échapper à une extradition vers la Suède, où il était recherché pour des accusations de viol et d'agression sexuelle qu'il niait. Julian Assange craint, en cas d'arrestation, d'être extradé et jugé aux États-Unis pour la publication par Wikileaks en 2010 de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains. En France, une femme âgée de 32 ans est morte de la rougeole dans un hôpital de l'ouest du pays. Elle n'était pas vaccinée. Ce décès intervient alors que la France vient de légiférer pour porter de 3 à 11 le nombre de vaccins obligatoires, dont celui de la rougeole pour les enfants, le tout après de vifs débats. L'épidémie de rougeole qui sévit en Nouvelle-Aquitaine, dans l'ouest du pays, donc depuis le début novembre 2017, persiste dans cette région, selon l'Agence régionale de santé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et tout de suite, c'est la Minute Éco, la revue de l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Jean-Roger Bion.
La compagnie pétrolière BP compte investir plus d'un milliard de dollars en Égypte cette année, faisant de nouveau de ce pays une de ses priorités en matière d'investissement. Selon son directeur général, BP a indiqué que le gouvernement égyptien avait soldé ses comptes avec la compagnie pétrolière britannique. Soucieux d'attirer de nouveaux investissements dans le secteur de l'énergie, le Caire s'est engagé à régler les arriérés dus aux compagnies pétrolières étrangères d'ici la fin 2019 et à ne pas en accumuler d'autres. À fin juin 2017, ces arriérés se montaient à 2,4 milliards de dollars. Les douanes nigérianes ont annoncé aujourd'hui avoir saisi à Lagos 4 conteneurs de médicaments illégalement importés d'Inde, dont du tramadol, puissant algique réputé populaire auprès des combattants des groupes djihadistes comme Boko Haram. Selon les services de douane au port de Lagos, les médicaments n'étaient pas certifiés par l'Agence nationale pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments, la NAFDAC, car ils dépassaient les quantités limites requises. Et les autorités sud-africaines ont proclamé mardi l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays à cause de la sécheresse historique qui frappe depuis des mois la ville du Cap, menacée d'une rupture d'approvisionnement en eau potable. Cette décision, publiée dans le journal officiel, a été prise après réévaluation de l'ampleur et de la gravité de la sécheresse actuelle. Le gouvernement sud-africain se voit désormais confier la gestion de cette crise.
Au sport maintenant avec vous, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir Anaï, bonsoir à tous.
Alors, dans le cadre de la huitième de finale allée de la Ligue des Champions, mission compliquée ce soir pour le FC Bâle face à la Montagne City.
Oui, Anna, mission compliquée pour le club suisse ou déplacement a priori peu difficile pour Manchester City. Victorieux de 23 de ses 27 matchs en Première Ligue, les Sky Blues ont offert un nouveau récital samedi face à Leicester 5-1 avec un quadruplé d'Aguero. L'unique raison d'espérer pour les Suisses avant ce match aller réside dans les statistiques du FC Bâle à domicile face aux formations anglaises. 4 succès et 1 nul contre seulement 2 défaites. Coup d'envoi de ce FC Bâle Manchester City, 19h45, temps universel.
Et là, c'est un dilemme terrible pour un amoureux du football. À la même heure, Harry Kane et Tottenham feront face à une forteresse nommée Juventus.
Et oui, Anna, les Spurs défient la vieille dame dans son antre réputé imprenable de l'Allianz Stadium. C'est un match important, mais c'est le genre de match que l'on veut quand on est un joueur. On veut se tester contre les meilleurs, a estimé Harry Kane, le meilleur buteur de l'année 2017. Et l'attaquant anglais le sait bien, il a plus de buts en 2017, 56, que Ronaldo et Lionel Messi. Mais c'est à partir de la phase finale que les légendes et les ballons d'or se construisent.
Et demain, le match au sommet, c'est bien Real Madrid-PSG. Et Paris ne joue pas que sa saison dans Rendez-vous.
Anna, c'est aussi une affaire de gros sous et de finances par-dessus tout. La faute aux 400 millions d'euros dépensés l'été dernier pour recruter Neymar et Kylian Mbappé, qui ont mis le PSG dans le viseur de l'UEFA et de son fair play financier. Pour éviter toute déconvenue en fin de saison, Paris doit engranger 80 millions d'euros d'ici au mois de juin. Un montant que des ventes de joueurs aideraient à atteindre, mais un bon parcours en Ligue des Champions permettrait justement d'éviter d'en arriver là. Et tenez-vous bien, il y a 20 millions d'euros à gagner rien que pour un arrêt en quart de finale.
Yacouba, on se quitte avec Pyeongchang 2018. Petit Jean, la Togolaise, éliminée en qualification du ski de fond.
Malheureusement, non, pour sa première épreuve aux Jeux Olympiques d'hiver, Mathilde Amivi Petit Jean, qui aborde les couleurs du Togo, vous l'avez dit, n'a pas passé le cap des qualifications en ski de fond. Elle a terminé 59e.
Merci, Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. Nous commençons en République démocratique du Congo. Il n'y aura pas d'élection dans les délais impartis sans recours à la machine à voter. Et c'est Corneille Nanga qui l'affirme. Le président de la Commission électorale nationale indépendante réagissait à la position de Washington qui s'oppose à ce mode d'élection en RD Congo. Pour une réaction, Eddy Sango a joint à Kinshasa Patrick Ngoï de la Ligue des électeurs. Écoutons-le.
Opposer un obstacle à la tenue des élections, cette pratique venant de l'autorité de l'organe de gestion des élections, alors, nous n'en sommes pas à une première tentative. Déjà, lorsque vous voyez la panoplie des contraintes qui ont été publiées au même moment que le calendrier électoral, n'étonne personne. Aujourd'hui, vouloir imposer la machine à voter avec tout ce qu'il y a comme argumentation liée à la question est une stratégie à emmener les différents acteurs sur une autre table de négociation en vue de tirer à longueur parce qu'ils savent déjà que cela ne passera pas. Donc personne ne fait confiance à la machine à voter.
Les États-Unis se sont formellement opposés à l'utilisation de cette machine à voter.
De la société civile en général et même de certains acteurs politiques, nous n'avons pas accepté cette idée de la machine à voter qui, pour nous, contribuerait fortement à flouer les résultats des élections. Donc la position des États-Unis d'Amérique est une position que nous appuyons fortement et nous espérons qu'au niveau interne, ici, la CENI va devoir se débarrasser, qui n'est pas du tout de la vie des Congolais en général. Donc nous sommes très contents de cette prise de position des États-Unis et nous mènerons même des plaidoyers dans ce sens en espérant que dans les élections que nous souhaitons, il n'y ait pas cette machine à voter.
Vous ne craignez pas que votre démarche puisse retarder les élections?
Cela n'a aucunement pour conséquence le retard dans le processus électoral. Déjà que même cela ne paraissait pas dans la loi électorale.
Le président de la CENI dit que la machine à voter va aider à réduire la dimension du bulletin de vote parce qu'on aura trois scrutins, mais elle permet aussi de réduire les coûts.
Déjà, au niveau de l'organisation des scrutins, on a voulu coupler les présidentielles, les législatives, les locales. La grande priorité aujourd'hui demeure l'élection présidentielle. Vouloir avancer la question de la machine à voter comme seul moyen pouvant nous aider à réduire le coût de l'impression des bulletins, du transport en termes de tonnes et tout ça, c'est un argument qui ne tient pas par rapport aux véritables besoins.
C'était Patrick Ngoï de la Ligue des électeurs, joint à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Nouvelles accusations de viol contre l'organisation humanitaire britannique Oxfam. Après Haïti en 2011, le scandale sexuel a lieu cette fois-ci au Soudan du Sud. La directrice générale adjointe d'Oxfam, Penny Lawrence, a démissionné hier lundi. Avant la fin de l'enquête interne en 2011, 4 employés avaient été licenciés et 3 autres avaient démissionné. Eric Maniarakiza a joint à Londres le directeur du département humanitaire et développement de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il s'appelle Michel Mayetta.
C'est vrai que ce qui se passe actuellement à Oxfam est dramatique. Malheureusement, c'est un vrai lynchage médiatique et il faut aussi dire que cette organisation, pour d'autres aspects, est une des plus grandes organisations leaders dans le secteur. Elle a fait beaucoup de progrès pour l'inclusion des populations concernées par des désastres, des crises humanitaires, dans la définition des stratégies humanitaires elles-mêmes. Je sais que la préoccupation sur la relation de pouvoir qui existe entre délivreurs de l'aide et personnes concernées par l'aide est une préoccupation majeure dans cette organisation.
Est-ce que pour vous, ça remet en cause le fonctionnement de cette organisation?
Si effectivement il y a eu des dysfonctionnements dans le système de reporting sous ce type d'accident à l'intérieur de l'organisation, il faut inquiéter. Il faut laisser la justice et les enquêtes faire leur travail. Et laisser aussi les humanitaires travailler, continuer à faire leur travail.
Est-ce que ce scandale ne risque pas d'entacher la crédibilité d'autres organisations humanitaires ?
Écoutez, il existe la plupart des grosses organisations, des systèmes qui permettent de sanctuariser les lanceurs d'alerte et de protéger en fait les victimes. Ils sont quand même au cœur du mandat des organisations humanitaires. Les organisations humanitaires ont comme première préoccupation la sauvegarde des personnes victimes et des personnes vulnérables. C'est clair que ce type de scandale, du coup, est un vrai tremblement de terre, mais il ne faut pas oublier que les organisations humanitaires ne travaillent que pour ça, que pour les personnes les plus vulnérables. Il existe des systèmes, et comme tout système de reporting, ils peuvent dysfonctionner. Il faut enquêter, il faut comprendre pourquoi, mais de manière apaisée, de façon à que ce soit quelque chose de constructif et que cette expérience qui arrive à Oxfam puisse servir à l'intégralité du secteur pour améliorer ce système.
Que faut-il améliorer ?
Mais c'est pareil aussi dans le secteur public, dans le secteur privé. Il faut sanctuariser absolument et préserver les lanceurs d'alerte. Et ça, je pense que c'est une solution clé aussi dans le système humanitaire. Et protéger davantage, il faut fluidifier aussi la communication entre les ressources humaines des différentes organisations. Il y a des idées qui circulent comme la création d'un passeport ou quelque chose qui permet de transmettre et communiquer autour des ressources humaines de manière un peu plus fluide et transparente. C'est cette collaboration donc entre organisations qui permettra d'améliorer davantage les systèmes pour essayer d'éviter ce type d'accident.
C'est l'analyse de Michel Maietta de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Dans Washington Forum, ce jeudi 15 février. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, exige la démission du président Jacob Zuma, dont le second mandat prend fin en 2019, mais il refuse de démissionner. Pourquoi était-ce si difficile pour l'ANC de décider du sort de Jacob Zuma, malgré son implication présumée dans de nombreuses affaires de corruption ? Le parti au pouvoir va-t-il survivre ? Qui peut incarner ce qui reste de l'héritage de Nelson Mandela ? Quel impact sur la venir de l'Afrique du Sud, laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin et ses invités.
La communauté internationale célèbre ce mardi la journée mondiale de la radio. Au Tchad, la situation des radios privées est plutôt inquiétante. Elles sont menacées de fermeture et souvent en reportage, les journalistes sont l'objet d'agressions de la part des services de sécurité, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Au Tchad, les organisations professionnelles de médias célèbrent cette journée avec beaucoup de difficultés. En moins de 2 mois, plusieurs radios privées, associatives, communautaires et commerciales ont eu des ennuis avec les autorités administratives et celles en charge de régulation. Mekondo Souni est le président de l'Union des radios privées du Tchad.
D'abord, la radio FM Nada de Mundu, dans la région du Logone occidental, suspendue par le Haut Conseil de la Communication, la ICC. Le 30 janvier 2018, c'est le tour de la radio Takadje de Bodo, dans la région du Logone oriental, d'être fermé par le préfet. Le 9 février dernier, la radio Bargadje de Kélo a été fermée par le préfet. Mais bien avant cela, la radio Terre Nouvelle de Bongor, dans la région du Mayekebi-Est, a eu des ennuis avec les autorités locales par rapport au traitement de l'information.
Pour le président du Haut Conseil de la Communication, Dieudonné Dionabaï, non seulement ces radios ont violé leur cahier de charge, mais les journalistes qui travaillent dans ces médias font de l'amalgame.
La radio Bargadje a des problèmes parce qu'elle n'a pas informé le préfet de la Tandjilé Ouest qu'elle est en partenariat avec RFI. Il en est de même à la radio Takaj. Radio Nada, l'État a institué 3 jours de deuil national. Radio Nada a refusé de se soumettre et c'est la ACC qui a pris la décision d'arrêter le signal de Radio Nada pour 7 jours. Les radios sont-elles au-dessus de la loi? Les radios n'ont pas de problème, c'est les journalistes qui travaillent dans ces radios qui se prennent pour des militants. Ou vous êtes journaliste, ou vous êtes militant d'un parti politique, ou vous êtes militant de droits de l'homme.
Plusieurs journalistes des médias privés à la recherche de l'information sont soit éconduits, interpellés ou soit bastonnés par le service de sécurité. Le président de l'Union des journalistes tchadiens, Belgar Larmin Laguerre, dénonce cette pratique.
Je ne serais pas content quand on me dit qu'un journaliste a été tabassé pendant l'exercice de ses fonctions. C'est inadmissible. Malheureusement, c'est ce que nous vivons ces derniers temps. Je crois que une prise de conscience au niveau de l'ensemble des journalistes s'impose.
Le président du Haut Conseil de la Communication conseille aux journalistes d'être prudents en ce temps de crise. Dieudonné Dionabaï.
En situation de conflit, il faut que les journalistes prennent leurs dispositions. Que vos organes stands de presse, vous achetez des gilets. Quand vous partez, c'est écrit là, gros presse. Mais si vous allez dans la tenue comme les manifestants, c'est pas écrit sur notre front, journaliste. Quand vous allez en reportage, on paye votre assurance. Vous n'êtes même pas inscrit à la CNPS.
À l'occasion de cette journée, le patron des radios privées du Tchad, Mekondo Souni, demande aux autorités locales de ne pas s'immiscer dans les prérogatives du Haut Conseil de la communication pour arrêter les journalistes ou fermer les radios privées installées dans les circonscriptions administratives. André Kodouma Dingar Ndiamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici, aux États-Unis, le prix annuel de l'ingénieur noir a été attribué à un Burundais, Eric Biribouzé. Il est responsable stratégie et développement pour une société américaine, Corning Incorporated. Monsieur Biribouzé a été récompensé pour avoir créé un système de réduction de l'épaisseur des vitres des voitures, notamment les pare-brises, et réduction également du poids des véhicules. Eric Manirakiza a joint le lauréat.
Le prix que j'ai reçu, c'est le prix de l'ingénieur noir aux États-Unis pour la contribution dans la carrière. Pourquoi j'ai eu ce prix? Je viens de travailler plus de 20 ans dans la compagnie de Corning. J'ai réalisé beaucoup de projets qui ont contribué à plus de 1 milliard de dollars pour la compagnie de Corning. Ce prix aussi, c'est pour la science, la technologie, l'ingénierat et les maths. C'est pour encourager les jeunes de ce pays, les jeunes dans le monde, et surtout les Noirs, pour continuer à étudier dans les disciplines de la science, dans les disciplines de l'ingénierat, dans les disciplines de la technologie et les maths.
Vous avez été reconnu pour votre contribution. Qu'est-ce que cela signifie pour vous?
Moi, je suis, comme vous le savez, d'origine burundaise. J'ai grandi en Gagara. Je suis allé faire mes études en Chine. Et puis, quand j'ai terminé mes études en Chine, je suis venu dans ce pays, ici aux États-Unis. Ça montre que quelqu'un qui vient de notre pays, le Burundi, peut acquérir un grand prix reconnu mondialement. Donc, c'est un prix que je prends très fortement pour encourager nos jeunes, pour étudier les sciences, l'ingénierat, la technologie. Parce que ce sont ces disciplines qui vraiment encouragent le pays, qui aident le pays à se développer. Je pense que c'est un symbole, pas seulement pour moi, ma famille et mes amis, mais vraiment pour encourager notre pays, pour le développement.
Est-ce que vous étiez en compétition avec d'autres ingénieurs? Quels sont les critères pour attribuer ce prix?
J'étais en compétition avec tous les ingénieurs noirs dans tout le pays des États-Unis de la carrière professionnelle. Et puis, toutes les compagnies que vraiment on connaît mondialement, comme Boeing, Cisco, Google, tous les ingénieurs de ces compagnies-là étaient en compétition. Les critères, c'est qu'il faut démontrer que quelqu'un a persévéré dans les domaines de la science, de la technologie et puis d'ingénierat pour aider la compagnie à acquérir un grand développement. Alors dans mon cas, les contributions que j'ai faites ont aidé ma compagnie Corning d'acquérir plus d'un milliard de dollars au cours de ma carrière. J'aimerais encourager nos jeunes burundais, les jeunes de la diaspora, pour se développer individuellement, pour développer leur famille ou leur pays, que vraiment, si on travaille beaucoup, si on est sérieux dans ce qu'on veut faire, on peut accomplir beaucoup de choses et avoir des prix et être reconnu mondialement.
C'était Eric Biribouzé, ingénieur dans l'industrie automobile aux États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma, assisté de Bill Barber, Anastasie Tudiech. À la présentation pour l'actualité 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma.
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.